passé. Ce matin-là, en Thaïlande, celui où j'ai découvert que j'avais épousé un monstre, je n'étais pas pressée que Jack se réveille car je savais que j'allais alors devoir commencer à jouer le rôle de ma vie. J'avais consacré l'essentiel de cette longue nuit à me préparer mentalement, à accepter que si je voulais regagner l'Angleterre saine et sauve, j'allais être obligée d'endosser la peau d'une femme brisée et effrayée. Ce second volet ne m'inquiétait guère, car j'étais vraiment terrifiée. En revanche, il serait bien plus délicat d'aller contre ma nature rebelle, mais comme Jack était sûr que je tenterais de m'échapper à nouveau pendant notre séjour ici, j'étais décidée à lui donner tort. Il fallait absolument qu'il croie que j'avais déjà rendu les armes. Soudain, il a remué. Je me suis blottie un peu plus dans ma couverture et j'ai fait semblant de dormir en espérant gagner un peu de répit. Je l'ai entendu se lever et s'approcher afin de m'observer. J'ai senti le poids de son regard sur moi et ma peau s'est couverte de chair de poule tandis que mon pouls s'accélérait. J'étais convaincue qu'il pouvait humer ma peur. Au bout de quelques instants, il s'est éloigné. J'ai cependant attendu que la porte de la salle de bain s'ouvre et se referme pour soulever les paupières.
« Je savais bien que tu ne dormais pas », a-t-il dit.
J'ai poussé un cri affolé car il se tenait tout près de moi.
« Lève-toi, je te rappelle que tu as des excuses à présenter ce matin. »
Je me suis douchée et habillée sous sa surveillance et j'ai tâché de me réconforter en me souvenant que la veille au soir, il avait assuré que je ne l'attirais pas sexuellement.
« Bien », a-t-il approuvé en voyant la robe que j'avais sélectionnée. « Et maintenant, souris. »
En bas, ai-je marmonné, cherchant à gagner du temps.
« Tout de suite !»
a-t-il ordonné d'une voix ferme.
« Je veux que tu me regardes comme si tu m'aimais. »
J'ai avalé ma salive avant de me tourner vers lui. Je pensais ne pas en être capable, mais face à la tendresse qu'affichaient ses traits, j'ai été victime d'une sorte de déni, comme si les événements des dernières 48 heures n'avaient été qu'un rêve. Je n'ai pas réussi à dissimuler mon désir, et lorsqu'il m'a adressé un sourire énamouré, je n'ai pas pu m'empêcher de lui en retourner.
« Voilà qui est mieux, » a-t-il murmuré. « Veille à rester comme ça pendant le petit déjeuner. »
Ahuri et gêné d'avoir oublié ne serait-ce qu'une minute ce qu'il était, je me suis empourprée. Ça l'a amusé.
« Envisage les choses ainsi, Grace, puisque visiblement tu me trouves encore séduisant, tu auras moins de mal à jouer les épouses aimantes. »
Des larmes de honte ont perlé à mes paupières et je me suis détournée, révulsée de constater que son apparence physique contredisait le mal qu'elle abritait. Dans la mesure où il était capable de me duper, de m'amener à oublier même pendant quelques secondes ce qu'il m'avait révélé de lui, comment allais-je parvenir à convaincre les autres qu'il était un loup déguisé en agneau? Nous sommes descendus en ascenseur. Devant la réception, Jack m'a conduite d'autorité vers le directeur. Il s'est collé à moi, le bras autour de mes épaules, pendant que je demandais pardon pour mon comportement de la veille et expliquais que, avec le décalage horaire, j'avais négligé de prendre mes médicaments à l'heure dite. Derrière le comptoir, Kiko me contemplait sans un mot, et en dépit de tout, j'ai espéré que quelque chose en elle, une espèce d'empathie féminine peut-être, l'amène à identifier comme authentique ma détresse du soir précédent. Avait-elle nourri des doutes quand Jack avait surgi sans crier gare au 6e étage, alors que j'étais dans la salle de bain, et lui avait annoncé qu'il prenait le relais? Mon petit discours achevé, je lui ai jeté un coup d'œil, en priant pour qu'elle saisisse que je jouais la comédie et contacte l'ambassade quand même. Malheureusement, elle a fui mon regard. Balayant d'un geste mon acte de contrition, le manager nous a escortés en personne jusqu'à la terrasse et nous a installés au soleil. Bien que j'aie l'appétit coupé, je me suis contrainte à manger, parce que je devais garder des forces tandis que Jack pérorait, m'informant, pour le bénéfice de nos voisins immédiats, du programme de la journée. Nous n'avons évidemment rien fait de ce qu'il détaillait pour la galerie. Le petit déjeuner terminé, il m'a poussé jusqu'à l'hôtel 5 étoiles situé dans la même rue que le nôtre, celui que j'avais aperçu depuis le taxi. Après m'avoir prise en photo à plusieurs reprises devant le hall d'entrée, j'ai invoqué de bons souvenirs de Millie pour afficher le bonheur qu'il exigeait. Il m'a ramenée à notre chambre. « J'aimerais appeler Millie, » ai-je dit, une fois la porte refermée. « Puis-je avoir mon portable, s'il te plaît ?»«
Je crains que ce ne soit pas possible, » a-t-il objecté avec de faux airs de regret.
« J'ai promis à ma mère que je téléphonerai, » ai-je insisté. « Et je voudrais savoir comment va ma sœur. »«
Et moi, je veux que tes parents pensent que ton voyage de noces en ma compagnie est si merveilleux que tu as complètement oublié Millie. »«
Je t'en prie, Jack. » J'ai détesté mon ton suppliant, mais je tenais vraiment à prendre des nouvelles de Millie, et, plus bizarrement, à entendre la voix de ma mère.
à constater que le monde que j'avais connu existait encore.
« Non. »«
Je te hais »
ai-je grondé, les dents serrées.
« Ça va de soi.
À présent, je vais sortir, pendant que toi, tu attendras ici sur le balcon de façon à être joliment bronzé à notre retour. Mieux vaut que tu prennes tout ce qui risque de t'être nécessaire, parce que tu ne seras pas en mesure de rentrer en mon absence. »
J'ai mis un moment à comprendre.
« Sérieux ? Tu comptes m'enfermer dehors ?»«
Oui. »
« Mais pourquoi est-ce que je ne reste pas dans la chambre ?»«
Parce que je ne peux pas t'y boucler. »
Je lui ai lancé un regard de stupeur. « Et si j'ai besoin d'aller aux toilettes ?»«
Prends tes précautions tout de suite. » »« Conseil d'ami. » »«
Mais combien de temps seras-tu parti ?»«
2 ou 3 heures, 4 peut-être. Et au cas où tu envisagerais d'appeler à l'aide depuis le balcon, sache que je serai dans les parages à t'espionner. Alors pas de bêtises, Grace. Te voilà avertie. »
Ses accents ont déclenché un frisson le long de ma colonne vertébrale. En même temps, une fois qu'il aurait filé, il allait être dur de résister à la tentation de m'époumoner pour que quelqu'un vienne à ma rescousse. J'ai essayé d'imaginer les conséquences d'un tel acte. Même si une âme charitable se manifestait, il accourrait lui aussi, armé d'arguments convaincants sur ma fragilité mentale. Et quand bien même un curieux décidait d'enquêter plus avant sur mes allégations, il pouvait s'écouler des semaines avant qu'on prouve que Jack était un meurtrier et qu'il me retenait prisonnière. Si je répétais l'histoire qu'il m'avait racontée, les autorités découvriraient peut-être une vieille affaire sur un homme violent ayant battu sa femme à mort correspondant à ma version. Elles seraient même susceptibles de rechercher le père de Jack. Sauf que, en admettant qu'il avoue que c'était son fils l'assassin, il était peu probable qu'on le croie quelques 30 ans après le drame. De toute façon, il y avait de fortes chances qu'il soit mort aujourd'hui. Plus embêtant, je n'avais aucune garantie que les faits soient authentiques et aucun moyen de m'en assurer. Bien qu'il soit suffisamment horrible pour être plausible, il était envisageable que Jack les ait inventés rien que pour m'effrayer. Le balcon sur lequel j'allais être condamné à passer les prochaines heures donnait sur la terrasse, aménagée à l'arrière de l'hôtel. En me penchant, je voyais les gens amassés au bord de la piscine, s'apprêtant à piquer une tête ou se cherchant un endroit où prendre le soleil. Je me suis rendu compte que Jack pouvait se trouver n'importe où en bas, à mes pieds, et qu'il lui était plus facile de me localiser que l'inverse. Je me suis donc éloignée de la balustrade. Les lieux étaient équipés de 2 chaises longues à lattes en bois, du genre inconfortable et qui laissent des marques sur les jambes si on s'y attarde trop. Il y avait également une petite table, mais aucun matelas de plage rembourré qui m'aurait permis de tuer le temps de façon plus agréable. Par bonheur, j'avais pensé à prendre ma serviette. Je m'en suis fait un coussin que j'ai installé sur l'un des transats. Jack m'ayant pressé, je n'avais eu le loisir de rassembler qu'un maillot de bain, de la crème solaire et mes lunettes de soleil. J'avais omis d'attraper un des nombreux livres qui lestaient ma valise, ce qui, au fond, n'avait pas grande importance, car je n'aurais pas réussi à me concentrer sur l'histoire, aussi passionnante soit-elle. Il a en effet suffi de quelques minutes sur ce balcon pour que j'aie l'impression d'être un lion en cage. Résultat, mon envie de fuir s'est renforcée et j'ai été heureuse de constater que la chambre attenante était vide. Sinon, la tentation de chercher du secours aurait eu raison de moi. La semaine qui a suivi a été une torture. Parfois, Jack m'invitait à prendre le petit déjeuner avec lui en bas, d'autres fois non. J'ai peu à peu compris à la manière dont le directeur le traitait qu'il était un client régulier. Quand nous descendions, il me ramenait ensuite directement à la chambre et m'enfermait dehors jusqu'à ce qu'il revienne de ses escapades et m'autorise à rentrer pour que je me soulage et mange ce qu'il m'avait rapporté en guise de déjeuner. Une heure plus tard environ, il m'exilait de nouveau sur le balcon et disparaissait jusqu'au soir. Certains petits détails ont allégé l'horreur de ma situation. Il y avait toujours un pan d'ombre où me réfugier. À force d'insister, j'ai obtenu que Jack me fournisse des bouteilles d'eau, même si je devais boire avec parcimonie. S'il ne m'abandonnait jamais plus de quelques heures d'affilée, elle s'écoulait avec une lenteur accablante. Quand la solitude, l'ennui, la peur et le désespoir devenaient trop difficiles à supporter, je fermais les yeux et je songeais à Millie. J'avais beau mourir d'envie de quitter ce balcon, quand Jack décidait de me sortir, non parce qu'il avait pitié de moi, mais parce qu'il voulait me photographier, j'étais souvent soulagée de réintégrer la chambre, tant ces occasions étaient stressantes. Un soir, il m'a invité dans un restaurant merveilleux où il a pris cliché sur cliché de moi à divers stades du dîner. Un après-midi, il a réservé un taxi, et nous sommes partis pour un marathon touristique, effectuant 4 jours de visite en 4 heures, pendant lesquels il a tiré différents portraits de moi, preuve supplémentaire de ma félicité. Un autre après-midi, il m'a traîné dans ce qui devait être l'un des plus beaux palaces de Bangkok. Là, il a miraculeusement obtenu accès à leur plage privée. J'ai dû changer de maillot à de multiples reprises pour que les images laissent à croire qu'elles avaient été réalisées jour après jour. Je me suis alors demandé si c'était ici qu'il passait les heures pendant lesquelles il me laissait seule. J'avais escompté que le personnel de notre hôtel s'interrogerait sur la rareté de mes apparitions, mais un matin que nous étions au petit-déjeuner, on a pris des nouvelles de ma santé avec sollicitude et j'ai découvert que Jack avait raconté qu'un virus intestinal me clouait au lit. Le pire de ces incursions dans la normalité était l'espoir qu'elle me donnait, dans la mesure où, en public, Jack redevenait l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Il arrivait, quand il jouait les maris prévenants et aimants, au cours d'un dîner, par exemple, que j'oublie sa véritable nature. Je m'en serais peut-être mieux souvenue s'il n'avait été d'aussi bonne compagnie. Mais quand bien même elle restait présente à mon esprit, j'avais du mal à assimiler l'homme qui, de l'autre côté de la table, me couvait des yeux avec adoration, à celui qui me retenait contre ma volonté. Tant de mal que, parfois, je croyais presque avoir tout inventé. La chute n'en était que plus rude, car en sus de la déception éprouvée, je cédais à la honte d'avoir succombé à son charme. Je scrutais alors les parages avec frénésie, en quête d'une échappatoire, d'un refuge, d'un confident. S'en rendant compte, Jack me dévisageait avec ironie et me provoquait. « Sauve-toi. Allez, va raconter à ce type là-bas ou à celui-ci que je suis ton geôlier, un monstre, un assassin. Mais d'abord, regarde bien autour de toi. Regarde ce beau restaurant où je t'ai amené. Pense à la délicieuse nourriture que tu manges et au vin exquis dans ton verre. As-tu l'air d'une captive? Ai-je l'air d'un monstre doublé d'un assassin? Je ne crois pas. Mais bon, si tu en as envie, je t'en prie. Je ne t'en empêcherai pas, je suis d'humeur joueuse. » Je ravalais mes larmes, me remémorais que, de retour en Angleterre, tout serait plus simple. Au début de la seconde semaine de notre séjour, j'ai souffert d'une telle baisse de morale qu'il m'a été encore plus dur de ne pas céder aux sirènes d'une tentative d'évasion. La perspective de 6 jours supplémentaires sur le balcon était déjà déprimante. De surcroît, j'avais commencé à admettre que j'étais dans une impasse. Je n'étais plus aussi convaincue que, une fois en Angleterre, il me serait si facile que ça d'échapper à Jack, notamment parce que sa réputation de brillant avocat risquait de le protéger. Quand je songeais à le dénoncer pour celui qu'il était réellement, je me disais qu'au bout du compte, l'ambassade de Grande-Bretagne en Thaïlande était certainement une solution plus sûre que le poste de police anglais local. S'ajoutait à ces réflexions une dimension nouvelle. Les 3 jours précédents, Jack m'avait libéré du balcon et laissé passer la soirée dans la chambre. Il m'avait annoncé que lui ressortait, non sans me prévenir que si j'essayais de filer, il en serait aussitôt averti. Savoir que je pouvais ouvrir la porte et m'en aller était une torture, et j'ai dû en appeler à toute ma volonté pour m'en abstenir. Bien m'en a pris d'ailleurs. Le premier soir, Jack est réapparu au bout de 20 minutes. Le deuxième, au bout 1 heure. Mais le troisième, il n'est rentré qu'à 23 heures. Et j'ai compris qu'il augmentait progressivement la durée des moments où j'étais seule. Je me suis donc demandé s'il finirait par me donner assez de temps pour me rendre à l'ambassade et si je devais en profiter. Compter sur la direction de l'hôtel était exclu. Or, sans aide extérieure, je n'irais pas très loin. Cependant, la chambre contiguë était occupée depuis le week-end. Était-il possible d'en appeler à la compassion de ses nouveaux locataires? Si je n'avais pas réussi à définir leur nationalité, car leur voix était étouffée par le mur, j'avais déduit qu'il s'agissait d'un jeune couple à cause du genre de musique qu'ils écoutaient. Certes, ils n'étaient pas souvent là pendant la journée. Personne, à part moi, ne venait en Thaïlande pour rester enfermé. Quand c'était le cas, l'un d'eux sortait parfois sur le balcon pour fumer une cigarette. Je supputais que c'était l'homme, car la silhouette que je discernais vaguement par la cloison de séparation paraissait masculine. D'ailleurs, je l'avais entendu s'adresser à sa compagne dans ce qui ressemblait à de l'espagnol ou du portugais. Comme le couple donnait aussi l'impression de passer ses soirées dans sa chambre, je soupçonnais des amoureux en voyage de noces, ravis de faire l'amour. Dans ces moments-là, où la musique traversait le mur, mes yeux s'emplissaient de larmes. Une fois encore, j'étais renvoyée à ce qui aurait pu être. Lorsque le 4e jour, Jack n'est pas revenu avant 1 minuit, j'ai eu la confirmation qu'il allongeait ces intervalles où il m'abandonnait à moi-même, escomptant que je ne tenterais pas de me sauver.
Si j'ignorais où il se rendait, il était toujours d'excellente humeur à son retour. J'en ai conclu qu'il fréquentait des bordels. Au cours de mes interminables heures sur le balcon où je n'avais que mes réflexions pour me tenir compagnie, j'avais décidé que, vu ses commentaires sur nos relations intimes, il devait être homosexuel et se rendait en Thaïlande pour assouvir des désirs qu'il s'interdisait chez nous, par crainte d'être soumis à un chantage. Cette théorie était bancale, je le pressentais, dans la mesure où la révélation d'une éventuelle homosexualité n'était pas la fin du monde. Quelque chose clochait, sur quoi je n'arrivais pour l'instant pas à mettre le doigt. Le cinquième soir, il n'est pas réapparu avant 2 heures du matin, et j'ai entrepris de sérieusement peser les options qui s'offraient à moi. Il nous restait 5 jours avant de reprendre l'avion pour l'Angleterre. À la perspective de ce qui représentait une attente interminable, s'ajoutait la peur que Jack recule notre départ. Le matin même, de plus en plus contrarié de ne pas avoir été autorisé à téléphoner à Millie, je lui avais demandé d'aller la voir dès notre atterrissage à Londres. Ce à quoi il avait rétorqué qu'il tirait tant de plaisir à notre lune de miel qu'il envisageait de la prolonger. J'en avais pleuré d'angoisse, sans bruit. J'avais eu beau me répéter que c'était là l'un de ces nouveaux jeux qu'il cherchait juste à me déstabiliser. Je m'étais sentie tellement impuissante que j'avais sangloté presque toute la journée. Du coup, ce soir-là, j'ai décidé de fuir. Si je n'avais pas été aussi certaine que le couple à côté était espagnol et non portugais, je me serais peut-être ravisée. Mais comme j'avais appris assez de bribes linguistiques lors de mes séjours en Argentine, j'estimais pouvoir faire comprendre à ces gens à quel point j'avais besoin d'aide. Par ailleurs, la présence d'une femme à laquelle il me serait plus facile de parler m'a également encouragée. Et puis j'étais presque sûre qu'il soupçonnait déjà mes ennuis, car dans l'après-midi, quand l'homme était sorti fumer, il avait hélé sa compagne d'une voix soucieuse, affirmant entendre quelqu'un pleurer. Craignant que Jack, de son poste de surveillance, les surprenne à essayer de regarder par-dessus la paroi, j'avais étouffé mes larmes et m'étais figée, de façon à ce qu'il croie que j'avais réintégré la chambre. En vérité, j'espérais qu'avoir perçu mes sanglots me serait d'un grand secours. J'ai attendu 3 heures avant de passer à l'acte. Il était plus de 23 heures, mais je savais que mes voisins ne dormaient pas encore car je les entendais s'agiter. Échaudée par ma première expérience, j'ai vérifié que mes papiers et mon argent n'étaient ni dans mon sac ni dans ma valise. Ceci fait, j'ai entrebâillé la porte, en priant pour ne pas tomber sur Jack sans revenant de sa virée. La voie étant libre, je suis allée tambouriner à la chambre mitoyenne de la nôtre, avec plus de force que j'en avais eu l'intention tant je craignais que Jack me saute dessus. De l'autre côté du battant, l'homme a marmonné, peut-être agacé d'être dérangé aussi tardivement. « Quién es ? »
« Je suis votre voisine, aidez-moi s'il vous plaît. »«
Qué pasa ? »
« Ouvrez-moi, je vous en prie. »
Dans mon dos, j'ai capté le bruit de l'ascenseur qui se mettait en route. Je me suis mise à frapper à coups redoublés.
« Vite, je vous en supplie, vite !»
On a tiré le verrou alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient. Je me suis ruée à l'intérieur.
« Merci, merci, merci. Je... »
Mes balbutiements incohérents sont morts sur mes lèvres. Jack se tenait devant moi.
« Je t'attendais plus tôt, »
a-t-il ricané, ravi par mon expression choquée.
« Je commençais à croire que je t'avais mal cerné, que tu avais tenu compte de mes avertissements et que tu ne broncherais pas. Cela aurait été plus sage de ta part, mais bien moins drôle pour moi. J'avoue que j'aurais été déçue si tous mes efforts avaient dû se révéler vains. »
Les jambes coupées, je me suis affalée sur le sol en frissonnant de stupeur. Il s'est accroupi près de moi. « Laisse-moi deviner. » a-t-il soufflé. « Tu as pensé qu'un couple espagnol s'était installé ici, n'est-ce pas ? Désolé, ce n'était que moi. » Réfléchis, tu n'as jamais entendu la femme répondre. Et pour cause, sa voix émanait de la radio. Tu ne l'as jamais vue non plus sur le balcon, mais ça ne t'a pas empêché de te persuader qu'elle existait. Tu ignorais que je fume, évidemment. J'évite d'en faire une habitude. Tu ne savais pas non plus que je parle espagnol. » Il s'est interrompu un instant.
« Je t'avais pourtant dit qu'il serait sot de tenter de fuir encore une fois avant que nous quittions la Thaïlande, » a-t-il repris.
La voix si douce qu'elle est devenue chuchotie. « Comment vais-je réagir, à ton avis ?»«
Ça m'est égal, »
ai-je sangloté. Courageuse parole, mais je sais que tu n'en penses pas un mot. Imagine que j'ai décidé de t'éliminer. Tu serais bouleversée.
parce que ça signifierait que tu ne reverrais plus jamais Milly.
Tu ne me tueras pas, ai-je répliqué avec une assurance feinte.
Tu as raison. Pas dans l'immédiat, du moins, parce que j'ai besoin que tu fasses pour Milly ce qu'elle-même n'est pas capable de faire.
Il s'est relevé, m'a froidement toisé.
Malheureusement, a-t-il enchaîné, il m'est impossible de te punir ici, car je n'ai rien dont te priver. En revanche, suite à tes deux tentatives d'évasion, nous n'irons rendre visite à ta sœur ni le premier, ni le second week-end suivant notre retour.
« Tu n'as pas le droit !» ai-je crié.
« J'ai tous les droits, d'autant que tu étais prévenu. »
Il m'a remise debout.
« Allons-y. »
Il a ouvert la porte, m'a brutalement poussé dans le couloir.
Payer une seconde chambre en valait la peine. Monsieur O, le directeur, a très bien compris que, vu ton déséquilibre mental, il me fallait un peu d'intimité.
Tu ressens quoi d'apprendre que je t'ai surveillé depuis le début?
Moins de plaisir que celui que j'aurai quand on te flanquera en tôle, ai-je grondé.
Ça n'arrivera jamais, Grace.
Tu veux savoir pourquoi?
Parce que je suis blanc comme neige. Tel a été le pire moment de mes deux semaines en Thaïlande. Moins parce que je n'avais pas réussi à filer que parce que, encore une fois, j'étais tombée dans la chausse trappe que Jack m'avait si soigneusement tendue. J'ai tenté de saisir pourquoi il s'était donné autant de mal pour me piéger, alors que sans ça, je n'aurais pas tenté de fuir. Peut-être que ma docilité l'avait lassé, à moins qu'il s'agisse de motifs plus sinistres, comme vouloir me briser moralement puisqu'il ne pouvait pas s'octroyer le plaisir de le faire physiquement. La seule perspective qu'il transforme ma captivité en sorte de jeu psychologique me glaçait les sangs. Même si une autre occasion de me sauver se présentait, planerait toujours cette peur qu'il l'ait orchestrée. C'est là que j'ai compris que si je ne m'éloignais pas de lui dès notre retour en Angleterre, avant même d'avoir quitté l'aéroport, ce serait bien plus compliqué quand nous serions installés dans la maison. Luttant contre la dépression, je me suis obligée à réfléchir à ma marge de manœuvre, que ce soit à bord de l'avion ou à Heathrow. Si je révélais à une hôtesse après le décollage que j'étais sa prisonnière, arriverais-je à garder mon calme quand il prétendrait que j'étais folle? Imaginons qu'il brandisse le compte-rendu du directeur de l'hôtel pour confirmer ses allégations. Que pouvais-je faire face à cela? De plus, même si je restais sereine, comment convaincre les membres de l'équipage de procéder à des vérifications sur lui en plein vol? Enfin, découvrirait-il qu'il était un imposteur ou, au contraire, que Jack Angel était le chevalier blanc des femmes battues? Bien que je n'aie aucune réponse à mes multiples interrogations, j'étais déterminée à plaider ma cause. Et je l'étais tout autant à piquer une telle crise si jamais on refusait de m'entendre que les autorités d'Heathrow n'auraient d'autre choix que de me faire conduire à l'hôpital ou au poste de police. Quand j'ai commencé à avoir sommeil, très vite après le décollage de notre vol de nuit, je n'y ai guère prêté attention. Mais le lendemain matin, à l'atterrissage, j'étais tellement groggy qu'il a fallu me sortir de l'avion en fauteuil roulant. Ma langue était si pâteuse que je pouvais à peine parler. Bien que je ne saisisse pas ce que Jack expliquait au médecin venu vérifier mon état tant j'avais le cerveau embrumé, j'ai vu qu'il brandissait un flacon de pilules. J'ai alors compris que mes chances de filer m'échappaient. Tandis qu'on nous escortait au contrôle des passeports, j'ai déployé des efforts surhumains pour appeler au secours. Je n'ai émis que des sons inintelligibles. Dans la voiture, Jack m'a attaché à mon siège avec la ceinture de sécurité, et je me suis écroulée contre la portière, incapable de lutter contre la somnolence qui me handicapait. Lorsque je suis revenue à moi, Jack essayait de me forcer à boire un café noir très fort qu'il avait acheté au distributeur d'une station-service. Si ça m'a un peu ranimée, je suis restée confuse et désorientée. « Où sommes-nous ? » ai-je marmonné en essayant de me redresser.
« Presque à la maison, » a-t-il répondu.
Il avait de tels accents triomphants que j'ai eu peur. Il s'est réinstallé derrière le volant, et nous sommes repartis. J'ai tenté d'identifier les lieux où nous étions, je n'ai reconnu aucun nom des villages que nous traversions. Au bout d'une demi-heure, il a bifurqué dans une allée.
« Nous y sommes, chérie », a-t-il dit en ralentissant. « J'espère qu'elle va te plaire. »
Nous étions arrêtés devant un immense portail noir à deux battants. Un peu plus loin, un portillon, noir également et flanqué d'une sonnette, était percé dans le haut mur. S'emparant d'une télécommande, Jack a appuyé sur un bouton et les vantaux ont commencé à s'écarter.
« Voici mon cadeau de mariage. Alors, qu'en penses-tu ?
J'ai d'abord cru que le somnifère qu'il m'avait administré provoquait mes hallucinations. Puis je me suis aperçue que j'étais en train de contempler la demeure dont nous avions échafaudé les plans au bar de l'hôtel Connaught, celle qu'il m'avait promise de dénicher. Tout y était, jusqu'au petit œil de bœuf dans le toit.
« Les mots te manquent »
s'est-il esclaffé en redémarrant. Il s'est garé devant la porte principale, puis est descendu et a contourné la voiture pour m'ouvrir la portière. Constatant que je restais pétrifiée sur mon siège, il a glissé ses mains sous mes bras et m'a tiré sans façon jusque sous le porche. Déverrouillant la serrure, il m'a poussé dans le vestibule avant de claquer la porte derrière nous.
« Bienvenue chez toi »
a-t-il raillé.
« Je te souhaite d'y être très heureuse. »
Le hall était splendide avec son plafond cathédral et son superbe escalier. Les diverses portes sur la droite étaient fermées, de même que la grande double porte sur la gauche.
« Je ne doute pas que tu aies envie que je te fasse faire le tour du propriétaire, mais d'abord, n'aimerais-tu pas voir Molly ?»«
Molly ? » ai-je répété en le regardant sans comprendre.
« Oui, ne me dis pas que tu l'as oubliée. »«
Où est-elle ? » ai-je demandé avec empressement, choquée de constater que je n'avais pas pensé à la chienne une seule fois pendant notre séjour en Thaïlande.
« Où est Molly ?»«
Dans la buanderie. »
Poussant un des bâtons sur la droite, il a appuyé sur un interrupteur.
« En bas, »
a-t-il précisé. Je l'ai suivi dans l'escalier. J'ai reconnu le carrelage qui figurait sur la photo qu'il avait prise de Molly dans son panier. Il s'est arrêté devant une autre porte.
« Elle est ici, »
a-t-il dit.
« Mais avant d'entrer, tu as intérêt à t'équiper de ça. »
Il a pris un rouleau de sac poubelle sur une étagère, en a arraché un et me l'a tendu.
« Tu risques d'en avoir besoin. »